Good Morning Business, le débrief de la matinale.
À 8h39 avec Dominique Carlac, avec Jean-François Robin et Pierre-René Lemas et Anthony Morel qui a passé sa nuit donc à regarder le Woodstock de l'intelligence artificielle avec le show de Nvidia. Bon, vous n'avez pas pris de kétamine comme Elon Musk.
Non.
Qui danse sur CNN, dit qu'il prend de la...
Ah bon ?
Oui. Kétamine de temps en temps, parce que ce qui compte c'est le résultat, c'est que Wall Street, et que c'est son médecin qui lui en prescrit.
Ça se voit des fois.
Donc
là, même sans kétamine, vous arrivez à suivre un Woodstock de l'IA.
Ah mais évidemment. Non mais en même temps, ça se suivait très très bien, ce Woodstock de l'IA. Alors Woodstock de l'IA, c'est une expression utilisée par certains analystes financiers, parce que effectivement, c'est un très gros événement. En gros, c'est une conférence développeur, mais il y a quand même 300 000 personnes qui sont attendues. C'est énorme. Oui. Là, ça se passait dans une salle de concert. Donc, faut imaginer, elle était pleine. Il y avait 18 000 personnes dans la salle. Les yeux rivés sur Jensen Huang, donc le patron d'NVIDIA, avec sa veste de cuir comme toujours, qui était là en mode VRP et qui venait présenter en fait, la prochaine génération de ces super puces, de ces GPU, comme on appelle ça, qui sont les briques de base de l'IA. Hein. C'est vraiment ce qui permet d'entraîner les modèles d'intelligence artificielle. C'est ce qui permet de faire tourner ChatGPT, par exemple, quand vous faites une requête, ça passe par un GPU. Donc, c'est vraiment un événement important. Et là, il a annoncé donc Blackwell, c'est la nouvelle génération, nouvelle architecture de ces GPU qui permet donc d'être 4 fois plus rapide que la génération actuelle, d'être 25 fois plus efficient d'un point de vue énergétique, donc il y a un gros enjeu énergétique sur l'IA. Et c'est vraiment un très gros morceau. Pourquoi tout le monde a regardé ? Parce qu'en fait, ces outils-là, toutes les entreprises se les arrachent aujourd'hui. C'est-à-dire que Blackwell vient succéder à H100, et H100, en fait, c'est un composant qui coûte 40 000 dollars aujourd'hui, et que tout le monde, enfin, je veux dire, il y a un marché spéculatif, il y a de la revente sur eBay. Nvidia est obligé de choisir quel client il va livrer et quel client il ne livrera pas. Enfin, vraiment, on en est à ce niveau-là de spéculation, et du coup, forcément, tout le monde est en train de regarder ce que fait Nvidia, sachant que les applications, elles sont très très vastes. Hein. Ça va de la recherche médicale aux voitures autonomes, au cloud gaming, à de la reconnaissance d'images. Enfin, il y a énormément de secteurs qui sont concernés.
Dominique Carlac, peut-être que la folie Nvidia va retomber. En tout cas, aujourd'hui, c'est une boîte qui vaut 2000 milliards de dollars.
Elle n'est pas prête de retomber parce que, en fait, l'intelligence artificielle, c'est trois piliers. Le pilier des algorithmes, les logiciels, le pilier des infrastructures de calcul, ça c'est Nvidia, et puis le pilier des data. Les data, on les connaît tous, c'est tout ce qu'on a sur WhatsApp, sur les mails, etc. Là, il a une avance considérable. Vous disiez 4 fois plus de capacité de calcul, sachant que l'année dernière, la puce qu'ils avaient sortie, c'était 9 fois plus de capacité de calcul, la fameuse puce à 40 000 dollars. Donc, ça va pas baisser, la valorisation, parce que tout le monde s'arrache, effectivement, ce pilier de l'intelligence artificielle qui est la puissance de calcul. Et l'histoire est assez jolie, parce que dans les années 90, ils ont sorti une puce qui était pour les gamers, c'est-à-dire c'était des cartes graphiques pour améliorer l'image. Voilà. Et de ces cartes graphiques, on est passé à une capacité de traitement de calcul parallèle qui vient du jeu et qui permet justement de nourrir et de rendre intelligentes les intelligences artificielles, parce que elles font du calcul parallèle et donc elles permettent d'entraîner les intelligences artificielles.
Est-ce que c'est vrai, Anthony, c'est ce qu'il a dit pendant la conférence, que ces puces sont capables de donner quasiment la vie aux robots ?
Oui, alors c'est ce qu'il expliquait. En fait, il y a un projet parallèle qui a été présenté, donc ça s'appelle Groot, qui est bien une petite référence à Marvel.
Ça s'appelle Groot.
Voilà, exactement. Et en fait, c'est exactement ça. L'une des applications pour cette nouvelle architecture de puce, ça va être d'intégrer ça dans des robots et des humanoïdes, en fait, pour leur permettre de comprendre ce qu'on leur dit en langage naturel, donc une sorte de ChatGPT embarqué, et d'imiter les êtres humains, donc de nous regarder faire, de décomposer, décortiquer chacun de nos mouvements et de pouvoir ensuite les répliquer.
Incroyable.
Un robot mimétique, si vous voulez. Donc là, ça va être la prochaine génération de robotique humanoïde, et ça aussi, ça va être une révolution, alors que ce soit dans l'industrie, évidemment, parce qu'on imagine bien les applications, et pourquoi pas pour avoir demain ou après-demain des robots majordomes à la maison.
Comment vous regardez Nvidia, Jean-François Robin, avec une vision macroéconomique? C'est que ça nous dit quelque chose de ce qui est en train de devenir l'économie, là?
Oui, alors ça nous dit quelque chose sur ce que devient l'économie, et puis aussi, on est vraiment typiquement dans le cycle de l'innovation, c'est-à-dire quelqu'un qui a un produit, qui l'invente, qui a une avance technologique, bien évidemment, il capte de la marge que n'ont pas les autres. Et là, on est vraiment typiquement dans ce haut de cycle, quand même, moi, je trouve. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui a de l'avance, qui a du pricing power, qui est le seul à le faire. Donc, il est vraiment en situation monopolistique. La question, c'est combien de temps ça prend pour les concurrents, puisque là, on le disait, il choisit ses clients, ses prix montent, tout le monde suit. Il a vraiment du pricing power. Combien de temps ça la prend pour que les concurrents reviennent à cette frontière technologique et le rattrapent? Et évidemment, quand vous avez des prix qui montent et vous ne pouvez pas servir tout le monde, vous accélérez les entrants dans ce marché-là. Donc, je ne sais pas combien de temps ça prend, mais moi, je suis suis assez persuadé que Nvidia, dans 3 ans, sera pas du tout il y aura plus une situation de monopole, quoi.
Ah, c'est vrai que tous les concurrents essayent de rattraper, mais il y a quand même de l'écart. Apple, c'est intéressant parce qu'Apple, c'est quand même la figure, la plus grosse capi, etc. Ils se sont peut-être fait doubler et ils sont peut-être pas capables de rattraper le retard. On a appris qu'ils allaient s'allier avec Google pour leur prochain iPhone. Ça veut dire qu'ils ont pas les capacités aujourd'hui d'avoir leur propre solution.
Absolument. Alors sur un autre pilier, effectivement, donc c'est celui de l'IA générative vraiment embarqué dans les appareils. Et c'est vrai que Apple, on sait qu'ils travaillent en interne. Ils ont un coup de retard, c'est vrai, mais ils travaillent sur leurs propres IA génératives. Ils ont un moteur qui s'appelle Ajax sur lequel ils travaillent. Enfin, c'est assez bien documenté. Et ils devaient présenter à l'occasion de leur propre conférence développeur au mois de juin, en gros, le prochain iOS, le prochain système d'exploitation dopé à l'intelligence artificielle. Et ce qu'on apprend, c'est que visiblement, cette IA, elle n'est pas suffisamment avancée et que donc ils vont faire appel à Google. Comme ils ont fait appel à Google, le moteur de recherche, par exemple, dans des iPhones, bah, il y a Google et ils payent très très cher pour ça. Hein. Les services Google dans l'iPhone, c'est 18 milliards de dollars par an payés. Par Apple, c'est une très très grosse facture, et donc là il pourrait y avoir un deal de la même manière pour intégrer Gemini, donc l'IA de Google, dans les iPhones. Ce serait un très très gros coup, très très gros coup.
Ouais. Alors un chiffre quand même sur Nvidia, ils fournissent 80% des processeurs graphiques aujourd'hui, 80%. Donc ils ont une avance considérable sur le marché, sur la technologie.
Situation de monopole pour l'instant.
Ouais, absolue, 80%.
Et ce qui est extraordinaire, c'est quand même une boîte qui se crée quand en 97,
96.
Sur un marché qui n'existe pas.
Ouais.
Qui n'existe pas.
Ouais. Dans un Denny's. Vous connaissez la légende ?
Non.
C'est Denny's, vous connaissez la chaîne de petit déjeuner Denny's aux États-Unis.
Ouais, bien sûr.
Et donc c'est là que Jensen Huang, qui était plongeur chez Denny's, a l'idée de monter cette boîte. Et il dit qu'il a acquis son éthique de travail chez Denny's en faisant la plongée chez Denny's.
Il n'y a pas encore de série Netflix.
Non, mais il y a eu une cérémonie de commémoration dans le Denny's de la Silicon Valley il y a quelques temps, où Jensen Huang était présent et où il a donné des pourboires de $1000 à tout le monde.
Il y a le garage de Steve Jobs.
Exactement.
Et le Denny's de...
Mais je trouve intéressant une histoire, c'est quand même que ces gens viennent du jeu. À la base, ils font des cartes graphiques pour les jeux, et aujourd'hui, ça va nourrir de la biologie, ça va nourrir les traders pour la finance.
Ce qui est intéressant, c'est son origine aussi.
Il est arrivé à l'âge de 9 ans.
Il est sur 3 aux États-Unis, et ici l'immigration, etc. Donc c'est aussi
taïwanais, je crois, d'origine.
À l'âge de 9 ans.
Allez, on change complètement de sujet. On va parler des fonctionnaires. Est-ce qu'il faut augmenter les fonctionnaires? Il y a un appel à la grève aujourd'hui pour.
Ça, on est retourné en France.
Excusez-moi. Alors je vais aller encore plus loin. Je vais vous faire écouter Sophie Binet, la CGT, pour bien vous faire retomber. Écoutez-la.
Ce gouvernement ne voit les fonctionnaires que comme des coûts, alors que les fonctionnaires, c'est notre richesse collective. C'est ce qui fait la force de la France, d'avoir parmi les meilleurs services publics du monde. Et c'est ce qu'on est en train de perdre à cause des politiques austéritaires du gouvernement. Et donc, on a des fonctionnaires qui disent que ça n'est plus possible, que ça n'est plus possible de dévaloriser leur travail parce que leurs salaires ont baissé de 11% du fait de l'inflation, parce qu'ils n'ont pas eu d'augmentation générale.
De revalorisation.
De revalorisation. Et donc, ils et elles seront très nombreux et nombreuses à être en grève pour enfin se faire entendre et que le gouvernement change ses choix budgétaires qui sont dangereux pour les fonctionnaires, mais surtout pour toute la population, parce que les services publics, c'est ce qui tient le pays.
Oui, mais vous voyez, Pierre-André Lemay est d'accord avec elle. Il renie pas ses origines.
Non.
Je suis augmenter les fonctionnaires aujourd'hui, mais...
Non, mais je suis assez d'accord avec
elle. Avec quel argent après, hein ?
Je vais vous dire, on peut pas être... Là, on est à des années-lumière de l'intelligence artificielle, mais on est peut-être encore dans le game. Il y a une manière de... Il y a une manière de négocier que je n'arrive pas à comprendre.
Ouais.
Franchement, que j'arrive pas à comprendre.
C'est-à-dire la grève d'abord, la négo après ?
Non. C'est-à-dire d'abord des réunions avec les organisations syndicales et le ministre chargé de la fonction publique. Et d'habitude, on se met d'accord sur une série de paramètres. On constate qu'il y a un gap entre l'augmentation de salaire des années précédentes, l'augmentation du coût de la vie. On négocie sur le point d'indice. Là, ça a démarré par un désaccord sur l'index de référence. C'est quand même, c'est fou. C'est-à-dire les syndicats sont partis parce que le gouvernement est arrivé en disant bah, écoutez, tout va bien, voilà, on a pris la moyenne de ceci.
Il parle rémunération, en fait,
voilà,
le gouvernement.
Voilà, on va parler de la rémunération globale.
La RMPP.
La RMTP, je ne voulais pas rentrer dans les acronymes de la fonction publique. Les syndicats ont dit, écoutez, c'est incroyable, la RMPP, la RM moyenne...
Mais ils ont un peu raison, le gouvernement, il n'y a pas que l'indice, il y a aussi le glissement vieillesse technicité qui fait qu'on augmentait automatiquement.
Non, mais ce que je veux dire, c'est dans la méthode, on commence par ne pas être d'accord sur l'indice dont on parle. C'est déjà un assez mauvais signe. Donc évidemment, tout le monde se fâche. Alors après, il y a les problèmes de fond. Les problèmes de fond, c'est qu'en effet, il y a eu une augmentation d'1,5% l'année passée qui se met en œuvre cette année. Donc le gouvernement dit, voyez bien qu'il y a une augmentation en 2024. Non, elle a été décidée en 2023, elle se met en œuvre en janvier 2024. Donc faut pas, voilà. Et puis deux, il y a un malaise global dans la fonction publique qu'il faut pas sous-estimer. Les enseignants vont évidemment être parmi les premiers dans ces manifestations. Ils sont moyennement d'accord avec le choc des savoirs de Monsieur Attal.
J'ai quand même l'impression que Dominique vous regarde comme un extraterrestre.
C'est-à-dire que dans les entreprises privées, on n'a jamais vu aussi peu de conflictualité. C'est vrai que le dialogue social a été très nourri. Donc quand on parle de méthode, effectivement, il y a eu un effort qui a été fait de la part de toutes les parties prenantes, organisations patronales, organisations syndicales, de discuter, et ce à échelle des entreprises. Donc le dialogue social facilite à la fois de trouver la bonne méthode de dialogue continu et puis d'arriver à parler à peu près de la même chose. Et c'est vrai que ce qui est surprenant, c'est qu'aujourd'hui, nous, dans les entreprises privées, on parle souvent de package. Les collaborateurs qui viennent vous voir à la fin de l'année en disant « j'ai fait une bonne année », et si je regarde un peu l'entreprise voisine, le package qu'elle me propose. Et donc le package, c'est pas juste le point d'indice, c'est tout ce qu'offre l'entreprise pour un service rendu qui est une mission, un travail. Et donc aujourd'hui, je vois bien que sur la discussion qui est en train de s'amorcer, enfin le conflit qui est en train de s'amorcer, on n'est pas d'accord sur de quoi parle-t-on. Est-ce qu'on parle du point d'indice des fonctionnaires ou est-ce qu'on parle du package et des avantages catégoriels ou des évolutions catégorielles qu'il y a eu ministère par ministère ?
Et vous savez, les fonctionnaires aujourd'hui, ils sont dans une situation dont ils ont l'habitude, mais ça commence à s'aggraver, c'est-à-dire... Regardez tout à l'heure, on a tous souri en parlant du fonctionnaire immédiatement après l'intelligence artificielle. Mais il y a une espèce de ras-le-bol de la fonction publique qui est, on est les derniers, on est les ringards, on n'est pas bon. Quelle est la priorité dans la politique de pouvoir public? C'est de diminuer la masse salariale et donc de diminuer le nombre de fonctionnaires ou leur rémunération. Mmh. Voilà. Le président de la République, l'autre jour, a fait une conférence de ce qu'il appelait l'encadrement supérieur de la fonction publique. Mmh. Rien que ce vocabulaire exaspère les fonctionnaires.
Je vous coupe Pierre-René Lemaire parce qu'on apprend à l'instant que Atos arrête ses discussions avec Airbus sur notamment ce qui était sensible, la filiale cyber BDS. C'est quand même assez inquiétant pour le dossier Atos parce que ça va directement envoyer Atos au tapis.
C'était une information dès hier soir, exclusive de BFM Business avec Mathieu Pechberti, où on annonçait, avec prudence, mais on l'annonçait, que fin des discussions. Et du coup, ça veut dire qu'Atos est à la porte du tribunal de commerce.
Oui, il n'y a plus de repreneur ni d'un côté ni de l'autre, désormais.
Non.
Ouais, donc c'est très mauvais signe. Ouais.
C'est inquiétant quand même pour
très inquiétant.
Magnifique entreprise française.
Très inquiétant pour une entreprise.
Alors évidemment, on détaillera tout ça dans la journée sur BFM Business. Pendant ce temps-là, il nous reste 2 minutes pour parler de la BOJ, la Banque du Japon, donc, qui a décidé de remonter ses taux. Ça ne s'était pas fait depuis très longtemps. Qu'est-ce que ça change pour les marchés, Jean-François Robin?
Ça change pas grand-chose pour les marchés, finalement. Enfin, c'est un symbole et on voit bien que ça se passe très bien sur les actions, sur les taux. Ça bouge pas beaucoup. Ça a été très piloté. On sait ça depuis quelques mois qu'ils vont en sortir. Là où je trouve ça très intéressant, finalement, c'est que le Japon, on est tous en train de devenir un peu des Japonais dans nos évolutions de vieillissement démographique, de digitalisation, de robotisation, etc. Et souvent, le Japon, c'était un peu le contre-exemple d'un pays vieillissant mais qui avait pas d'inflation. C'est un pays où on manque de personnel de plus en plus, que les gens, encore une fois, ils sont en train de relever, pour faire la transition avec le sujet d'avant, on est en train de relever l'âge limite pour être chauffeur de taxi de 75 à 80 ans au Japon. Donc on est un pays vieillissant qui doit s'adapter à ça. Et donc la façon dont il s'adapte, c'est que c'est la course pour ceux qui est pour les jeunes, entre guillemets, de 60 ans. Et donc on est obligé de remonter les salaires. Et donc on voit au Japon que les salaires enfin sont en train de remonter.
La première fois depuis 30 ans.
Exactement.
Des hausses entre 3, 5, 7%.
C'est ça qui est très intéressant, c'est que les salaires montent parce qu'on commence à voir les effets de la rareté de la main-d'œuvre. Et ça, c'est ce qui nous attend tous. Donc soit on augmente les salaires pour attirer la main-d'œuvre rare, soit on accélère la robotisation. Et bien le Japon, précisément, ils sont en train de faire les deux. Et donc ça, c'est quand même, je trouve, un symbole, mais aussi peut-être un objet d'étude.
Avec une augmentation massive, quand même attendue, des dépenses militaires.
Ouais.
C'est un élément
Important. Partout,
comme partout.
Ouais, non, mais le Japon, je crois, 47 milliards de dollars cette année. Enfin, c'est des chiffres considérables pour atteindre 2% du PIB.
Voilà, on se rapproche de la France.
Merci à tous les trois.